Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Exploration psychédélique, une série de Marie Chartron réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le titre de cette émission, qui se devait forcément d'explorer la question. Et ce souvenir de la fin d'été 1969, il y a 50 ans, de la grande fête folle de Woodstock. Et cette envie de regarder toutes ces couleurs et ces formes de plus près. Alors pour commencer, les personnages. Un performeur sur le retour, un écrivain expérimentateur, une historienne de l'art qui raconte, un dessinateur et ses freaks, un collectionneur qui compare, un artiste des Lumières et une conservatrice éblouie. Ensuite, le décor. Le troisième œil, Moucha, des explosions de couleurs, un labo qui tâtonne, la mescaline, des affiches de concerts, des lettrages qui dégoulinent, son et lumière, courage, du vinyle et du plastique, le pouvoir du marketing et le pourrissement. Aujourd'hui, deuxième épisode, on devient un peu fou.
Comme s'il y avait une ouverture.
Une ouverture qui serait un rassemblement, qui serait un monde.
Qui serait qu'il peut arriver quelque chose.
Qu'il peut arriver quelque chose.
Qu'il peut arriver beaucoup de choses. Qu'il y a foule. Qu'il y a grouillement dans le possible. Que toutes les possibilités sont atteintes de fourmillement.
Et qui tous veulent être, se pressent, sont imminents.
Qu'il y a grouillement dans le possible.
Cette prodigieuse poussée de possibilités devenue énorme et qui se multiplie encore.
Les vertiges esthétiques psychédéliques.
Qui tous veulent être.
Marie Chartron.
Se pressent, sont imminents.
Diffy Mariani.
On voit un sage, un gourou, probablement indien, avec une grande barbe, des yeux fixes, et avec au-dessus, sur son front, le troisième œil, l'œil de la connaissance, le dernier chakra pour l'illumination.
Les psychédéliques voulaient surtout casser les codes, changer les règles.
La marque essentielle du psychédélique, c'est-à-dire des motifs floraux très art nouveau et clairement influencés par Alphonse Mucha.
On retrouve des animaux, des têtes humaines, des membres, des mains.
Première chose qui vient à l'idée de beaucoup de gens, quand on parle de psychédélisme, on va penser musique et pochette de disque. C'est-à-dire pochette de disque avec très bariolée, avec plein de couleurs, comme s'il y avait une explosion de couleurs et une explosion de formes, une explosion aussi du cadre. La musique, elle devient libertaire parce qu'on n'a plus de contraintes de 3 minutes. Le morceau doit durer 3 minutes. Ben, si on veut, il va durer 30 minutes.
En fait, je ne suis pas tellement intéressé dans la musique psychédélique. Les paroles ne sont pas importantes.
On va mélanger des choses qui, a priori, ne collaient pas ensemble, ne formaient pas un ensemble homogène, un ensemble qu'on va dire esthétique.
Ça me fait mal aux oreilles.
Casser les structures.
Je rappelle les paroles des chansons pop des années 50, plutôt comme Doris Day, que sera, sera. Whatever will be, des choses comme ça.
C'est ça, et c'est aussi l'écriture qui va énormément changer, qui est une écriture chaloupée, qui tourne, qui n'est pas droite, qui n'est pas rectiligne, qui va dans tous les sens, là aussi, ou qui peut prendre les formes qu'on veut.
Et là, ça c'est assez étonnant, c'est donc des chevaux dans l'azur, une constellation. On sent en chauve-souris, en parapluie et en champignon.
Qu'est-ce au juste, ce qu'on nomme a posteriori, de manière un peu floue, les années psychédéliques? Et de quelle manière se sont-elles imprimées dans les rétines? Je me souviens de quelques signes qui avaient ruisselé jusque dans les années 1970, un écho assourdi. Les comics de Robert Crumb, les couvertures des revues, la discothèque familiale, le souvenir des couleurs, les tentures indiennes partout, les pulls jacquard, violets et parmes, tricotés par mon beau-père dans le train, dont les motifs impossibles semblaient requérir une grande technicité. Mais cette époque-là, c'était après. après les substances hallucinogènes, les mutations graphiques et littéraires, les explorations pionnières des artistes et des musiciens.
Les années 60, déjà, nous étions engagés dans un mouvement...
Jean-Jacques Lebel, artiste, écrivain.
Complètement international, qui s'appelait le mouvement des happenings, c'est-à-dire le mouvement de ceux et celles qui essayaient de faire que l'œuvre d'art, l'image, ne soit pas à deux dimensions, ni à trois dimensions, mais à quatre dimensions. C'est-à-dire que le tableau sorte de la toile et rentre dans la vie, dans le volume de la vie, et que les actions d'art, les actions artistiques, se situent dans le réel, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Au début des années 50, Henri Michaux a commencé à utiliser des substances hallucinogènes qu'il raconte dans « Misérable miracle », « L'infini turbulent »,« Connaissance par les gouffres », les grands textes de Michaux, qu'il existait des moyens techniques, chimiques, de faire l'expérience de ce qu'il appelait, lui, ce sont ses termes, la psychose expérimentale. C'est-à-dire l'expérience réelle, vécue, du grand tremblement psychotique, mais avec cette possibilité que n'ont pas les psychotiques, c'est de redescendre dans la vie avec ses facultés mentales à peu près intactes, en sortant du voyage. Alors, il y a un contexte extrêmement important qui est celui, à cette époque-là, des années 50, 60, 70, 80, c'est le contexte de l'antipsychiatrie, qui s'en prend à cette mise à l'écart de ceux et celles qu'on appelait, entre guillemets, les fous. Et c'est dans ce contexte-là que Michaux, un jour, a été approché par le laboratoire Sandoz, qui fabriquait de la psilocybine, et qui cherchait des artistes pour servir en quelque sorte de cobayes, c'est-à-dire de voyageurs volontaires, de façon à comparer le travail qu'il et elle faisaient avant, pendant et après l'ingestion de psilocybine. Ça a été, pour tous ceux et celles qui ont pris part à ces expériences, au début des années 60, quelque chose d'absolument... Il y a un avant et un après, fondamental.
Sentiment d'une fissure.
Moi, creusé.
Je me cache la tête dans une écharpe, pour savoir, pour reconnaître les lieux.
Je vois un sillon.
Il y a que c'est torrentiel.
Sillon avec balayage petit.
Il y a que ça déboule.
Précipité.
Il y a que ça éclate.
Transverso.
Dedans un fluide. Mercuriel par l'éclat. Torrentiel par la lumière.
Électrique par la vitesse. Et on dirait aussi élastique. Il file montrant sur ses flancs d'infinis petits frisselis.
Fite.
Je lui vois aussi des zébrures.
Où exactement, ce sillon?
L'inoubliable sillon.
C'est comme s'il me traversait le crâne, du front au signe qui pute.
Michaux prend de la mescaline, par exemple, s'assoit à sa table, se met à écrire avec un stylo sur une feuille de papier, et tout d'un coup, la mescaline fait son effet sur son corps, sur son mental, et les mots se mettent à dégouliner comme de la peinture et deviennent en fait de la peinture. Et ce moment est tangible et visible, cette transformation de l'écrit en dripping à la Pollock, si vous voulez une métaphore un peu rapide, la métamorphose matérielle, tangible entre l'écriture et la peinture.
Je ne sais pas si on pourra définir un type d'œuvre artistique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une réflexion qui est menée donc dès les années 30 sur la relation entre hallucinogène, hallucination et transcription donc des hallucinations.
Élise Grand-Georges, historienne de l'art.
Et ça donne lieu dans le champ de la psychiatrie puis de la psychologie à des protocoles où des artistes sont conviés donc à réaliser des œuvres sous l'influence de la substance hallucinogène. Les psychiatres essayent en fait de déterminer comment l'hallucination peut être rendue donc par le biais de la transcription graphique. Il y a l'idée chez ces psychiatres que ces œuvres produites en conditions expérimentales pourront permettre de mieux comprendre la production graphique éventuelle des malades et en particulier des schizophrènes. Donc ça, il y a certaines recherches qui sont menées, en l'occurrence en Angleterre, à la Maudsley Clinic de Londres, dès les années 40. Puis en France, par exemple, à Sainte-Anne, un protocole va être mené par un jeune médecin qui s'appelle René Robert et qui va réunir donc 27 artistes et leur faire réaliser donc des œuvres d'art sous l'influence de la psilocybine. Ils cherchent à comprendre donc si ces artistes sont en mesure de transcrire leur hallucination. Ils se rendent assez vite compte que les œuvres réalisées, les œuvres graphiques, donc dessinées ou picturales, ne donnent pas à voir l'hallucination. Et du coup, René Robert va réorienter son protocole, puisqu'il se rend compte aussi, et ça c'est pas sans importance, que la plupart du temps, les artistes n'arrivent pas à créer lors de l'expérience des hallucinogènes.
On ne peut pas dessiner des pensées sur LSD parce que les yeux... On ne peut pas voir clairement.
Gilbert Shelton est auteur de bandes dessinées. Dans son Texas natal, il envisage d'abord de devenir graphiste et de se consacrer aux affiches de concerts. Mais c'est finalement la bande dessinée Underground qui prendra le dessus. En 1969, à San Francisco, il crée trois personnages mythiques, les fabuleux Freak Brothers. Phineas Freak, Fat Freddy, Free Willy Franklin. Un trio satirique et irrécupérable de Marx Brothers amateurs de drogue.
Freak veut dire monstre. Le mot hippie vient de hipster. Dans les années 50, les fans de bebop, jazz et tout ça, ils s'appelaient hipster. Et le hippie, c'est un diminutif péjoratif de hipster. Parce qu'il avait des cheveux longs et des vêtements. Couleur brillante et tout ça, il faut fumer le marijuana. Et entre les deux, il y avait les beatniks, comme Allen Ginsberg, Jack Kerouac. Moi, j'étais trop jeune pour être beatnik et trop âgé pour être hippie. Mais je semblais un hippie avec cheveux longs et sandales et je ne sais quoi.
The Grateful Dead, Avalon Bam Bam Bam, novembre 1966.
Les affiches de concerts qu'il y avait dans les années 50 et début 60 étaient graphiquement très sobres, très sages.
Stéphane Choufliquier, galeriste.
Les polices de caractère étaient assez très droites. Vous aviez des blogs, des pavés de texte. Les photos qui étaient utilisées étaient généralement des photos noires et blancs avec le visage des musiciens qui généralement souriaient. Bon, quand les graphistes psychédéliques sont arrivés, ils ont apporté énormément de nouveautés. Ils ont voulu surtout casser les codes.
Janis Joplin, 1967, Avalon Ballroom,
Regardez ces affiches-là. Surtout celui-là avec le rouge à côté de la verte, le bleu à côté de l'orange. Les couleurs complémentaires juste à côté l'un de l'autre. Par exemple, un vert brillant juste à côté d'un rouge brillant, ça choque les yeux.
Les psychédéliques étaient très inspirés par l'art nouveau. Ce qu'ils aimaient dans l'art nouveau, en fin de compte, c'était tout ce travail autour des courbes, que ce soit même au niveau de la représentation de la femme, l'ondulation des cheveux, le plissé des robes, le travail sur ses couleurs. Quand on regarde ces affiches qui étaient des affiches publicitaires, C'était des affiches qui étaient placardées dans les rues à San Francisco. Elles concernent donc des concerts qui avaient lieu principalement dans deux salles, une qui s'appelle le Fillmore et l'autre l'Avalon Ballroom. Chacune de ces salles organisait un concert par semaine. Chaque semaine, vous aviez donc deux affiches qui apparaissaient sur les murs, placardées sur les portes, les murs, sur les poteaux, dans San Francisco et dans ses environs. Le but de ces affiches était d'informer les jeunes, la jeunesse. Ces concerts étaient destinés à cette nouvelle population issue donc du baby-boom qui recherchait une liberté. Et donc, ces affiches apportaient une nouvelle vision.
Avalon Ballroom,
Van Morrison, Daily Flash, Hair.
Vous avez par exemple ici une affiche réalisée par Wes Wilson. Wes Wilson fait partie des cinq grands illustrateurs psychédéliques qu'on a surnommé le Big Five, les cinq grands, avec Stanley Mouse, Alton Kelley, Rick Griffin. Ils ont donné leur lettre de noblesse à ces affiches. Ils ont été les premiers instigateurs à faire ce genre d'affiches, en utilisant justement des polices de caractère créées au moment de l'Art Nouveau, mais sur lesquelles ils vont accentuer encore plus les déformations. Donc il y avait une liberté de trait, une liberté de forme et de contre-forme. Ils jouaient beaucoup justement sur ces différents plans et successions donc d'images.
San Francisco,
Fillmore, octobre 1969.
Le ressenti de l'affiche était plus important que sa compréhension. C'était la première étape pour pouvoir rentrer dans un nouvel univers. Et ces images, ces couleurs, ce travail de liberté sur les formes, sur la liberté du trait, liberté des couleurs. Habituellement, le rouge et le vert sur une même affiche ne permet pas de voir exactement les lettrages.
Fillmore Auditorium, Fillmore Jefferson Airplane, Fillmore Auditorium, The Charlatans, Blue Cheer.
Les graphistes psychédéliques avaient compris que quel meilleur moyen pour intéresser les gens qu'en intriguant. Un peu comme une carte au trésor. Vous voulez venir au concert? La règle est simple. Toutes les informations sont sous vos yeux. À vous de les trouver. Donc, ce que vous n'arrivez pas à lire, il faut juste laisser le temps à votre cerveau de décoder, de comprendre un peu le fil directeur de ces affiches, et progressivement, vous verrez apparaître à la fois les lettres composant la date, octobre, le 20, 21 et 22, dans le fond, le nom des musiciens, Van Morrison, par exemple, qu'on voit apparaître ici, vous avez l'adresse, le nom de la salle de concert, l'Avalon Ballroom, qui se trouvait au croisement de deux rues à San Francisco qui s'appellent Sutter et Van Ness. Toutes ces informations sont sous vos yeux. Mais c'est vrai qu'au premier abord, on ne les voit pas. Il fallait presque mériter d'aller au concert en réussissant à déchiffrer l'affiche. Donc ils laissaient libre cours à leur imagination et aussi leur manifestation de leur ressenti sous acide était transposée sur le papier, sous la forme de flammes, de fleurs. Il y avait tout ce mouvement qui était présent à travers ces affiches.
Ce rocher répond à je ne sais quoi en moi qui casse, recasse, sans cesse se reforme et casse à nouveau.
Maintenant, je suis devant un rocher.
Il se fend.
Non, il n'est plus fendu.
Clivage, brèche, brèche,
il est comme avant.
Brèche partout en même temps.
À nouveau, il est fendu, entièrement.
Non, il n'est plus fendu du tout.
Déchirure dans un sac.
À nouveau, il se fend.
À nouveau, il cesse d'être fendu.
Insupportablement anguleuse.
Et cela recommence indéfiniment.
Roc intact, puis clivage, puis roc intact, puis clivage, puis roc intact.
Puis clivage, puis roc intact, puis clivage, puis roc intact.
Alors, si on va vraiment à la racine des choses, ça commence à l'époque du lycée, puisque là, je suis très copain avec un garçon avec qui on partage les mêmes intérêts littéraires, c'est Gérard Rutten, et on est subjugué à cette époque-là par le livre de Maurice Nadeau sur le surréalisme, qui nous passionne énormément et qui va exciter en nous un énorme intérêt pour le groupe surréaliste, et aussi, en même temps, pour un groupe dissident qui était le Grand Jeu, qui était dans une posture qui nous intéressait vraiment de recherche intérieure.
Jean-Claude Bailly, éditeur, artiste de light show avec le collectif Mandala.
Il y avait un rejet par le groupe central, hein, parce qu'il y a eu plusieurs périodes dans le mouvement surréaliste, mais autour de la personne de Breton, c'était la personne qui nous subjuguait vraiment, il y avait au niveau moral, au niveau sociétal, un fondamental, le rejet de l'argent, le rejet des honneurs, et puis en même temps, il y avait une quête de connaissances qui indiquait ce que Breton a défini comme le point sublime, un dépassement de la personne, un dépassement de l'être, après avoir investigué tout ce qui était possible et imaginable. Au niveau littéraire, la subjugation, elle s'est faite avec certains textes surréalistes, et principalement les grands poèmes et les grands textes de Breton. Mais chez les symbolistes, c'était des Odilon Redon, des Knop, des Spielaert, l'imagerie symboliste qui nous fascinait. C'était une expression fantastique avec une inventivité incroyable. Cette fascination, elle s'est surtout cristallisée et elle a pris de la force à partir du moment où on a fait les premières expériences avec les substances hallucinogènes. Et donc on était confrontés à des représentations qui nous habitaient, qui étaient sorties de nous. Et on retrouvait certaines, quelques analogies avec ces visions-là, de ces créateurs-là. Il nous semblait retrouver quelque chose. Par exemple, le livre qui nous fascine à l'époque, c'est le Siddhartha de Hermann Hesse, le parcours de Gautama, hein, du Bouddha, et qui est un parcours de, je dirais pas quête spirituelle. On est toujours dans la même idée de se diriger vers une sorte de libération absolue, le truc auquel personne n'arrive. Hein. En fait, on explore des champs de perception qui sont vraiment une ouverture, mais c'est difficile, on ne peut pas poser de mots là-dessus. C'est une exaltation, on ne peut pas enfermer dans les mots les choses. On sait que quelque chose, y a quelque chose à l'horizon, on n'en sait pas plus que ça. Mais on utilise tous les moyens possibles et imaginables. Et puis il y avait une fascination aussi pour les quêtes de recherche dans les traditions et les religions orientales. Et donc le bouddhisme, et donc dans le bouddhisme, c'était le bouddhisme tibétain. Cette idée de structuration dans quelque chose d'éclaté, de structuration géométrique, nous avait fascinés. Dans ce qu'on utilisait comme imagerie, oui, il y avait ça, et puis il y avait aussi la peinture fantastique, les Jérôme Bosch, etc. Enfin, on allait puiser un peu partout.
Tiens, midi et demi déjà.
Comment est-ce possible?
Je n'ai pas encore vu de couleur de vraie, d'éclatante. Je n'en verrai peut-être pas.
Mécontent, je m'enveloppe à nouveau de mon écharpe.
Alors, sortant en apparence de ma réflexion, déclenchée par la pensée ou par le mot « presse-bouton », des milliers de petits points de couleur m'envahissent. Un déferlement, une inondation, mais dont chaque gouttelette colorée serait parfaitement distincte, isolée, détachée. Arrêt de l'inondation.
Il faut aussi que je vous précise qu'au cours de ces concerts, il n'y avait pas que de la musique. Il y avait aussi des personnes en charge des éclairages, donc justement des light shows. Donc, vous aviez une expérience sonore avec les musiciens, une expérience visuelle avec ces light shows, car ces rétroprojecteurs projetaient sur les murs donc des formes colorées en mouvement. Et ces personnes en charge des éclairages étaient considérées au même titre que les musiciens, comme des artistes. Donc, chaque affiche présentait le nom des musiciens, mais présentait aussi le nom des personnes en charge de ces éclairages. Et certaines personnes venaient même au concert, non pas pour la musique, mais pour justement ces light shows.
Alors, on est en 66, 67, quelque chose comme ça. On assiste à un concert des Pink Floyd dans une salle qui s'appelle The Roundhouse. Et là, je vois les Pink Floyd, d'une part. Et puis, le premier light show de Mark Boyle. On était fanatiques des Pink Floyd, vraiment. Il y avait une invention, une création poétique et une ambiance. Et puis, il y a les projections de Mark Boyle, qu'on n'avait jamais vu, on ne savait pas. Quand on regarde, c'est des bulles de couleurs qui éclatent. Quoi.
Le grand artiste Mark Boyle qui avait inventé un système assez intéressant de projection sur scène à une très grande échelle, sur les musiciens et derrière les musiciens, des images liquides du tableau en train de se faire, la peinture en train de se vivre. C'était en quelque sorte la musique qui devenait visible. C'était très très beau.
Il faisait clignoter l'image en fonction de la musique. C'est ce que nous on a fait par la suite, hein, selon son modèle. On adaptait des projecteurs de diapositives qui produisaient un faisceau lumineux et qui produisaient un faisceau de chaleur. Et à la place, au lieu de mettre des diapositives, des images transparentes à projeter, on mettait des couches de verre extra mince. Une, deux, trois, quatre couches de verre extra mince, un demi millimètre, quelque chose comme ça, qu'on mettait les unes sur les autres. Et entre chaque couche de verre, on mettait une substance. Alors, il y avait des pigments, des couleurs transparentes qui étaient mélangés avec un dissolvant qui était moitié alcool et moitié éther, qu'on allait acheter chez le pharmacien. Et la chaleur du projecteur provoquait petit à petit un éclatement du liquide qui n'était pas synchronisé avec la musique, hein, qui n'avait rien à voir, mais qui c'était des explosions de couleurs qui se chevauchaient les unes sur les autres. Pendant 5-6 minutes, ça explosait, il fallait en préparer un autre, pour etc., etc., et ça s'ajoutait. Et puis, aussi, adapter des effets géométriques qui on allait déplacer les unes contre les autres et qui faisaient des effets un peu hypnotiques, quoi. Plus y joindre du dessin, plus des photographies qu'on aurait pris à droite à gauche, plus des photographies qu'on aurait truquées. On était dans ce concept de faire un collage, de décors, de collages qui devaient bouger, d'une part, alors, qui devaient s'adapter à ce qu'on écoutait comme musique, et puis le faisceau lumineux était rythmé par les différents personnages qui intervenaient là-dedans, du groupe, et qui gigotaient avec leurs appareils, pour que ça bouge en même temps. Et donc, on était le premier. On était le premier groupe de light show en France. Donc, tous ces gens-là faisaient partie de ce groupe d'expérimentation du LSD et des groupes hallucinogènes. Donc ça, c'est en 65, hein, ça commence.
C'est revenu. Ça reprend.
La mécanique remarche.
Vert.
Vert.
Vert. L'ai-je vu ?
Trop fugitivement vu.
Je sais qu'il y a du vert, qu'il va y avoir du vert, qu'il y a une poussée de vert, qu'il y a du vert qui tend frénétiquement vers l'existence. Un vert,
je sais qu'il
on
y
ne
y a
peut
du vert.
Plus vert.
Qu'il va y avoir du vert. Qu'il y a une
qu'il
poussée
y a du
de
vert,
vert.
Qui tend frénétiquement vers l'existence.
Un vert, on ne peut plus vert.
L'extinction du vert.
Il n'est pas.
Il n'est pas.
Et il y en a énormément.
Sorti. Il est sorti.
Il est sorti.
Pleinement sorti. Je suis composé d'alvéoles
je
de verre.
Je suis composé d'alvéoles
vert
de verre.
Comme un point brillant sur le dos d'un scarabée. C'est en moi la zone qui émet vert. J'en suis vêtu, emmuré.
Emmuré. Je me termine en verre.
Une sorte de verre émeraude.
Thank you. Alors, cette mode était effectivement, c'était mettre des couleurs vives et des motifs assez fous un peu partout.
Jaïssé Lalouf, collectionneur.
Alors, dès que le polyester arrive, ça permet d'avoir des couleurs encore plus vives. Alors là, voilà, typiquement, ça c'est 100% pétrole.
Des photos, un maillot de bain en motif vertigineux, des vêtements délirants dans l'armoire familiale, cousus par une grand-mère a priori peu sensible à la musique des Beatles, millésime 1967 à 1969. L'explosion de couleurs, diffusée par la publicité, semble avoir gagné la rue. Les cheveux s'allongent, les formes s'évasent, se resserrent, flottent, enveloppent et découvrent les corps des hommes et des femmes, en brouillant un temps les codes du masculin et du féminin. André Courrèges, 27 janvier 1970.
Bon, alors, vous voyez, hein, la collection, elle est basée quand même sur, à grosse partie, sur des combinaisons, des ensembles en pantalon, que ça soit le jour ou le soir. Par contre, la collection est très très colorée. J'ai voulu donner un contraste à la rue qui me semble avoir passé un hiver extrêmement triste. J'ai voulu changer de saison et apporter quelque chose de très gai. Je ne sais pas si j'y arriverai, hein. Enfin je crois.
Regardez ces robes. Elles étaient en jersey avec du vinyle, vous voyez. C'était les années 66-67. C'était incroyable, c'était hyper moderne. Hein. C'était...
Renée Taponnier, conservatrice du musée Pierre Cardin.
Alors c'était sur des body rayés en lycra, rouge ou rouge et blanc, beige et blanc, avec des jupes à franges blanches ou marron ou grise. Vous voyez, c'était avec des grands colliers en vinyle. Il a travaillé beaucoup, fait des colliers en
là,
vinyle.
Là, c'est une sorte. Alors comment on pourrait appeler ça? C'est pas un pull, mais ça pourrait être une sorte de pull, un chandail. Mais qui est vraiment synthétique, hein. On est sur du polyester.
Avec celle-là, monsieur, qu'est-ce que vous allez mettre?
Ça, je vais mettre une perruque couleur tomate, à forme de tomate. On va mettre un coup, hein. Alors, j'aime assez ça, hein. Pourquoi? Parce qu'il est droit, c'est une vraie combinaison pour le soir, ça va être très bien. C'est un peu le thème de la collection. J'ai voulu faire quelque chose de moderne à notre époque où tout le monde fait des réminiscences.
C'est dur de définir ce motif, extrêmement psychédélique, puisqu'il y a des volutes un peu partout, vertes, jaunes et blanches, et oranges. Et au milieu de ces volutes, vous avez des lignes géométriques partout. Donc, ça fait un espèce de mélange improbable. Alors là, c'est très très psychédélique.
C'était l'espace, hein. Vraiment, ça a été fait l'année où l'homme a marché sur la Lune.
Alors, je vais vous montrer autre chose, parce que là, c'est un gilet complètement brodé, entièrement indien. Donc ça, c'est typiquement un habit hippie de l'époque. Hein. Voilà un verre avec des fleurs, différentes sortes de fleurs. Donc c'est tout brodé à la main, c'est assez magnifique.
Alors attendez, je vais vous montrer les Beatles.
La longueur n'a aucune importance. Le tout, c'est les couleurs, les matières et puis l'esprit général. Bon, viens voir cette robe, Irène.
Alors voilà, la veste des Beatles. C'était une veste qui était gris clair et qui était ras du cou. Et c'était l'époque où les Beatles, c'était des enfants sages.
Tu vas prendre tes incrustations et ne pas lui enlever du tout de sa souplesse. Hein. Concentre le corps à travers, c'est très naturel. Elle pourra danser, elle pourra faire ce qu'elle voudra.
Et puis la jupe d'Emma Peel, j'en ai un. Vous voyez, c'était ce style-là. Elle est habillée avec des jupes en vinyle, avec des bodys, des chaussures plates.
Il y aura une perruque jaune et des petites chaussettes blanches. Mets-moi le rouge. Hein.
Vous voyez, il a fait des robes en vinyle aussi.
Voilà, après, il y avait des cravates par milliers.
Ah oui, il y a des, sur le, cet ensemble-là qui est en, pas en vinyle, qui est en toile cirée.
Des motifs d'art optique ici.
Avec... au soutien-gorge, avec les deux bulles un peu transparents.
Voilà une typique cravate des années 70 avec ses superbes, tout en velours, qui est très épais.
Alors il a fait des robes aussi en plexi,
complètement démesuré et toujours beaucoup de motifs fleuris, variés, avec des couleurs très vives.
Et là, bon, elles sont en jersey-jersey, mais vous voyez, elle avait fait les cuissardes. Et
oui, c'est une espèce de vague, on va dire optique, hein, on va dire, c'est fait mal aux yeux un peu.
Oui, regardez.
Voilà, on peut pas regarder.
Là, c'est le rouge.
Il faut regarder le visage de la personne quand on le voit.
Voilà, alors ça, ces robes-là, c'est les années 63, 64. Hein. Mm. Vous voyez, il y a toujours ces cercles. Pour lui, c'est l'infini. Rien ne se termine.
Une large plaque sensiblement circulaire et comme élastique.
Un spasme en elle la fait successivement et presque imperceptiblement tantôt contractée,
tantôt étalée.
Elle est aussi comme élastiquement rose, rose,
rose
et puis non,
puis
rose,
non rose, puis rose, puis non rose, ou à peine rosée et ensuite extrêmement rosée. Le rose gagne, de multiples bulbes roses apparaissent. Le rose gagne de plus en plus, j'en fais, j'en pétille, je bourgeonne rose, je suffoque de roseur.
Le rose gagne de plus en plus,
de rosissement.
Dans les goûts du rose.
Je
le bécotage de ce rose me gêne, mais odieux.
Arrêt.
Arrêt.
Ouf.
Ici donc une pochette de disque de Herbert Léonard qui date de 1968 qui s'appelle Quelque chose tient mon cœur, et on a donc un entrelacement de formes, des couleurs extrêmement vives, du bleu, du vert, du orange, et une typographie donc en noir qui est assez lisible, et la figure donc de Herbert Léonard en impression négative voilà, au centre dans une esthétique qui se veut psychédélique.
En 1968, quelque chose tient le cœur d'Herbert Léonard. Et la même année, la pochette de l'album Jeune homme de Johnny Hallyday présente elle aussi toutes les caractéristiques apparentes d'une esthétique dite psychédélique. Les couleurs, le mouvement et le lettrage. En 1967, il avait adapté la chanson de Scott McKenzie, San Francisco. Si vous allez à San Francisco, vous y verrez des gens que j'aime bien. Tous les hippies de San Francisco vous donneront tout ce qu'ils ont pour rien. Dans ce monde en fusion, il y a trop d'explosions pour la destruction. Tout comme eux, vous direz non à la haine, aux passions. On est tous frères sur cette terre. Si vous allez à San Francisco, vous les verrez des fleurs dans les cheveux. Tous les hippies de San Francisco, pleins d'amour brûlant dans les yeux. À Paris, comme San Francisco, on verra beaucoup de gens comme eux. Alors qu'en 1966, il chantait « Cheveux longs, idées courtes ». Si Monsieur Kennedy aujourd'hui revenait ou si Monsieur Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter « da-da-da-da-da-dam » et surtout, avant tout, d'avoir les cheveux longs. Crier dans un micro « Je veux la liberté » assis sur son derrière avec les bras croisés.
Les affiches étaient faites pour être posées sur les murs, sur les colonnes Maurice à San Francisco, l'équivalent à San Francisco. Donc c'était un petit nombre. Et les gens savaient qu'il y avait deux, trois salles ou quatre salles qui, vous pouvez aller voir le concert.
Philippe Thiers, journaliste.
Donc ils arrivaient plus ou moins à déchiffrer, surtout ils avaient un peu fumé certaines affiches. D'autres affiches étaient assez claires. Mais les publicitaires vont réutiliser la base, on va dire, psychédélique de ces affiches pour en faire un élément publicitaire, mais lisible. C'est-à-dire ils vont reprendre, par exemple, l'écriture. Mais au lieu de l'écriture, d'avoir une écriture bleue sur un fond noir, enfin, ou jaune sur un fond vert, ou vert sur un fond jaune, quelque chose qui se mélange et que finalement on n'arrive pas à lire, ils vont ressortir cette même écriture, mais de telle manière, en association des couleurs qui vont être flashantes, on va dire, qui vont être percutantes, mais lisibles. Parce que eux, ils ont des contraintes. Il faut absolument que le produit se voit et que ça attire l'œil. Juste ce qu'il faut pour attirer l'œil, et d'un autre côté, que ce soit lisible.
Donc ici, une publicité pour une bague hippie qui donc, se nomme Love. Donc il s'agit d'un encart, certainement publié dans une revue. On nous vend donc une bague qui a été réalisée par Fenwil O'Connell, un des apôtres du mouvement hippie. Son message Love est incrusté dans les très fines ciselures de son alliage métallisé. Donc si vous voulez porter ce talisman d'amour, découpez le bon ci-dessous et envoyez-le à Fenwil O'Connell. Il vous sera expédié contre remboursement au prix de 49,50 francs. Alors là, ici, on utilise le terme plutôt de hippie, mais hippie égale aussi psychédélique hein, dans ces années-là.
Le phénomène de commercialisation et de marchandisation a tout pourri. Tant que c'était des expériences réelles, réellement vécues entre des êtres humains volontaires et lucides, c'était formidable. Et dès qu'il y a eu des choses à vendre, tout s'est effondré. C'est un processus qui attend la moindre manifestation de vie intérieure pour la transformer en marchandise. Le psychédélisme, ce qui est d'ailleurs un terme que je récuse absolument, je trouve que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt, c'est une coquille vide, et il y a la mise en spectacle du trip, le mot américain, le voyage, ça a porté un tort énorme à ce mouvement de recherche, qui était un véritable laboratoire de recherche internationale, de personnes qui cherchaient à approcher ce que le philosophe Georges Bataille a appelé la souveraineté de l'être, c'est-à-dire un moment où le sujet, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes en même temps l'objet de la recherche et le sujet qui pense ce qui est en train d'advenir. C'est une position extrêmement utopique, d'être en même temps le sujet et l'objet, et pourtant c'est ce qui arrive dans la psychose expérimentale, selon Michaud.
Celle-ci aussi est très intéressante. L'affiche là, c'est un petit peu différent, mais il s'agit d'une affiche qui a été réalisée dans le cadre des événements de mai 68, mais par la jeunesse gaulliste, étonnamment. Et là aussi, on a un lettrage psychédélique. Et l'affiche dit « Les jeunes assument la révolution avec De Gaulle ». Alors même que les affiches de 68, hein, par les ateliers des Beaux-Arts, eux ne reprenaient absolument pas cette esthétique dite psychédélique. Hein. On est dans des esthétiques bien plus sobres. On considérait déjà hein, que ces usages formels étaient liés, avaient une dimension marchande en fait. Et ça, très tôt, donc, hein, on constate hein, des textes qui vont en ce sens dès 1967. Ouais. Selon lesquels donc l'esthétique psychédélique est une esthétique marchande et qui ne rend pas compte de l'expérience des hallucinogènes.
Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un mouvement mondial en 1968, il s'appelait le mouvement de mai 68. Il s'est passé un certain nombre d'événements historiques, fondamentaux, très importants, qui se sont attaqués aux structures mêmes de la société. Bon. Les journalistes n'y ont vu que des petites bagarres entre étudiants et CRS, n'est-ce pas, en réduisant tout ça à quelque chose comme une espèce de spectacle de guignolade, n'est-ce pas. C'était bien plus que ça, évidemment. C'était la plus grande grève générale dans l'histoire du capitalisme. Et il y a eu, en effet, des bagarres de rue. C'est bien connu. Alors, il y avait des pavés qui volaient, qui étaient lancés sur les flics ripostèrent avec du gaz lacrymogène, des coups de crosse et des coups de bâton. Bon, c'est le côté guignol de la chose. Et qu'est-ce qui s'est passé un mois après mai 68? C'est-à-dire dans l'été mai 68. Il y avait un endroit qui s'appelait le Drugstore Saint-Germain, qui était au coin de la rue de Rennes et du boulevard Saint-Germain, qui vendait des gadgets. Et là, étaient mis en vente des pavés en caoutchouc, comme des jouets. Et quand vous le lanciez, que ça atterrissait sur quelqu'un, il y avait un sifflet à l'intérieur du caoutchouc qui faisait, n'est-ce pas, qui réduisait toute l'histoire de mai 68 un vulgaire gadget commercialisé. Ou alors, autre chose, les t-shirts vendus dans les concerts de Bob Dylan. Les gens pensaient qu'il suffisait d'enlever son t-shirt, de mettre un t-shirt de Bob Dylan pour avoir le génie de la musique de Bob Dylan. Vous voyez ce que je veux dire? La réduction des relations humaines en gadgets. Voilà ce qu'est la société capitaliste.
Je pense aussi à un petit article qui avait été publié dans le Wall Street Journal en 1967 et où donc le rédacteur de cet article affirmait que donner à un objet de consommation le nom de psychédélique lui assurait sa force de vente. Donc c'était une étiquette qui, du point de vue marketing, marchand, était extrêmement efficace. Et ça, c'est en 67, ce qui est relativement tôt, en fait.
Le psychédélisme n'a absolument pas échappé à ce type de pourrissement. Et des clowns médiatiques du style Timothy Leary, qui était une espèce de BHL qui aurait pris de la mescaline, c'était aussi dérisoire que les discours de BHL. Parce que la mescaline, le LSD, la psilocybine, était vendue, je souligne, vendue comme la panacée universelle. Or, il est évident que le LSD pris par un crétin ne transforme absolument pas ce crétin en génie visionnaire. C'est simplement un produit pharmaceutique qui est vendu comme un miracle. Mais le miracle, il n'existe que lorsque la personne en question est capable de se transformer. Avec ou sans mescaline, avec ou sans LSD. Dès que, à la place de l'expérience intérieure de l'individu, homme ou femme, qui fait ce voyage, il y a eu des résidus sous forme de vêtements, de musique, de couverture de disques, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films commerciaux. Dès que ce processus a commencé, dès le début, dès le départ, c'était pourri. Le processus de marchandisation de cette expérience-là était a fortiori impossible. Ça se passe sur un autre plan qui ne peut pas être réduit en quelque chose qui se vend et s'achète.
Destroyed by madness, starving, hysterical, naked.
Paul, Allen Ginsberg.
Dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. Who poverty in tatters and hollow-eyed and high, set up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz.
Alors, de deux choses l'une, où on en est conscient et on lutte contre ça et on essaye d'échapper à ce pourrissement, ou alors on s'y complaît et on se laisse faire et on se laisse aller à y participer. Il y a eu des poètes, il y a eu des musiciens et des musiciennes qui ont continué à inventer. Allen Ginsberg est un excellent exemple de ça. Gregory Corso aussi. Michael McClure, très grand poète visionnaire, qui a écrit des choses magnifiques sur la mescaline. Des grands penseurs du langage. Eux ne se sont pas laissés amoindrir et réduire à zéro. Et d'autres, au contraire, se sont complus dans cette espèce de déchéance qu'est la commercialisation. Dans tous les domaines, vous avez ça. Vous avez des êtres humains qui restent merveilleux et d'autres qui deviennent des pauvres crétins. Allez expliquer ça. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne peux que constater qu'il y a des gens qui se laissent faire dans la vie et d'autres qui résistent.
Qui sombrèrent toute la nuit dans la lumière de sous-marins de chez Bickford, flottèrent à la dérive et restèrent assis durant l'après-midi de bière plate dans le désert de chez Fugazi, écoutant le craquement d'apocalypse du jukebox à hydrogène, qui parlèrent sans discontinuer pendant 70 heures, du parc à la piole, au bar, à l'asile, au musée, au pont de Brooklyn. Un bataillon perdu de platonique.
Les fameuses salles de concert ferment, que ça soit le Fillmore. La Wallon Ballroom avait même fermé beaucoup plus tôt. La Wallon a fermé en 1968. Cet univers musical, aussi axé à la prise de certaines substances hallucinogènes,
avait été un petit peu dépassé. Certaines substances beaucoup plus fortes arrivaient. Les gens se lassaient aussi un petit peu de ce type de musique. Et justement, la salle du Fillmore, que ça soit le Fillmore à San Francisco ainsi que le Fillmore East à New York, ont fermé parce qu'il y avait déjà un petit peu trop de problèmes au cours de ces concerts. Et les modes passent et de nouveaux styles de musique arrivent.
Il y a les courants qui évoluent. Ils sont faits pour naître et disparaître. Mais ils ne disparaissent pas, en fait. Comme le mouvement psychédélique, on voit que ces derniers temps, ça revient énormément. Il y a une grosse partie des groupes de rock qui restent à faire du rock, font du rock psychédélique, énormément d'entre eux. Donc, ça ne disparaît pas. Mais ça ressurgit d'autres manières, et puis c'est comme en toile de fond, les courants ne se disparaissent pas en musique comme en art, ils s'accumulent quelque part, ils vivent des vies qui redeviennent un peu souterraines et puis ressurgissent à différentes époques. Il y a toujours des renversements de tendances, c'est le principe du mouvement, ça va disparaître et réapparaître d'autres manières, et ça c'est toujours comme ça en fait.
Le laboratoire mental et social et poétique a continué, mais qu'à un certain moment donné, dans les années 70-80, il est redevenu clandestin. Il est redevenu underground, c'est-à-dire souterrain. Le laboratoire mental collectif est toujours à l'œuvre, ça continue, mais la plupart des gens ne le voient pas, ne l'entendent pas, parce que c'est clandestin. Mais... la flamme ne s'est jamais éteinte, que je sache. Le problème de l'être, de la souveraineté de l'être, n'a pas bougé. On en est encore, chacun et chacune de nous, à faire face à notre désir d'en sortir vivant de ce tsunami de médiocrité qu'on nous oblige à avaler dans la société capitaliste. Ça n'a pas bougé, ça. Mais on ne peut pas... explorer ça à la place des autres. Chacun et chacune doit faire son propre voyage.
Alors, cherchons une petite pépite. Avant de se quitter, un artiste de l'époque, enfin un artiste actuel, artiste français ou artiste turc, artiste brésilien. Je suis spécialisé en psyché turc et en psyché africain, en psyché... qui est tout ce que vous voulez, hein.
Ainsi s'écoula ma nuit, grenadée de temps à autre par des images admirables.
Arrêt.
Long arrêt.
Une dernière tranchée de feu.
C'est parti, allez. C'est pas du tout ça, excusez-moi, je vous remets le bon.
Une dernière tranchée de feu.
C'était Les Vertiges de l'esthétique psychédélique. Avec Élise Grand-Georges, Jean-Claude Bailly, Stéphane Choufliquir, Philippe Thiers, Jean-Jacques Lebel, Gilbert Shelton, Jaïs Elalouf, René Taponi, Aymon de l'Étrange, et les voix de Léa Drouet, Jean-Luc Porraz, Mathieu Farizier, Mélodie Ziegler et Rayan Dinstag. Extrait de Misérable Miracle d'Henri Michaud et de Hall d'Allen Ginsberg. Merci à Laura Fontaine et Dominique Kravic. Documentation INA, Clary Monac. Coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marivonne à Bolivier. Prise de son, Yann Frécy, Frédéric Kérou, Olivier Dupré et Bernard Laniel. Mixage, Claude Niort. Un documentaire de Marie Chartron et Diffy Marianne.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en couleur, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode sur la route initiatique. Et pendant une semaine, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Les Bêtes, le documentaire d'Ariane Doublet consacré aux vétérinaires de campagne. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Mais n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, l'expérience, une histoire particulière et Les pieds sur terre.